premier rendez-vous d'information sur France Culture ce matin, c'est Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le 57e salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris. Et le président arrive avec une bien mauvaise nouvelle. De retour de Bruxelles, il n'a pas pu empêcher l'échec des négociations entre pays de l'Union européenne sur le budget 2021-2027 et notamment sur le maintien de l'enveloppe de la PAC, la politique agricole commune. Ce n'est pas la PAC qui peut payer pour le Brexit, a-t-il déclaré hier soir. Et en effet, la contribution des Britanniques, qui aurait pu se chiffrer à 75 milliards d'euros sur la période, fera cruellement défaut au budget de l'Union, notamment pour faire face aux nouvelles ambitions dont elle s'est dotée en matière de verdissement, de numérique, de défense ou d'espace. Les explications depuis Bruxelles de Pierre Benazé.
La principale pierre d'achoppement de ces négociations, c'est le fossé qui ne s'est pas comblé entre les économes et les ambitieux. 17 pays préconisent un budget qui fasse jouer la solidarité européenne avec les pays et régions les plus pauvres. En face, 4 pays dits frugaux, Autriche, Danemark, Suède et Pays-Bas, refusent de voir ce budget commun dépasser 1% du revenu national brut, ce qui raboterait de 75 milliards d'euros le montant total sur 7 ans. Pour Emmanuel Macron, l'UE a évité un mauvais accord qui aurait réduit de 15% le budget de la politique agricole commune au détriment des agriculteurs français.
Nous nous battons pour eux, pour les accompagner, parce que pour beaucoup d'entre eux, les revenus sont faibles, très faibles. On leur demande aussi beaucoup de changements. Et nos populations sont de plus en plus exigeantes avec leurs alimentations. Et nous en avons besoin pour notre souveraineté alimentaire. Nous avons refusé un mauvais accord sur la PAC. Nous n'avons pas sacrifié la politique agricole commune. Ce n'est pas la politique agricole commune qui peut payer pour le Brexit. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains mois, c'est le système actuel qui continuera à perdurer.
Le président du Conseil européen veut trouver des sources de financement qui aillent directement dans le budget commun, sans coûter aux États, et aboutir rapidement à une vraie solution. Les chefs d'État et de gouvernement peuvent s'attendre d'ici le printemps à devoir revenir à Bruxelles pour de nouvelles négociations budgétaires.
Les explications de Pierre Benazé depuis Bruxelles. À Fessenheim, le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire a été débranché du réseau électrique national cette nuit. Une procédure réalisée sans anicroche alors que des salariés promettaient de désobéir aux ordres. Le second réacteur de la centrale la plus vieille de France doit être débranché le 30 juin. Alerte au coronavirus en Italie, le pays européen le plus touché par la maladie. Dans le nord du pays, en Lombardie, 15 nouveaux cas sont recensés. Un groupe d'amis fréquentant le même bar et le même groupe. Des magasins, des bars, des écoles et des églises sont fermés pour une semaine dans 11 villes de la région. Et alors que les contaminations ralentissent en Chine, le foyer de l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme de l'absence de liens épidémiologiques clairs dans les cas apparus en dehors de la Chine, parfois sans antécédent de voyage ou contact avec un cas confirmé. 3,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes au Togo aujourd'hui pour un scrutin présidentiel sans grand suspense. Le président sortant, Foringa Ngasingbe, se présente pour un quatrième mandat dans une élection que l'opposition et les observateurs présentent comme verrouillée et viciée. À la tête de l'État depuis 15 ans, Faure avait succédé à son père et Yadema Ngasingbe à la faveur d'un coup d'État militaire. La famille règne sur ce petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis 53 ans maintenant. Au Togo, François Mfer Katadji a rencontré plusieurs générations d'électeurs qui n'ont connu rien d'autre que ce clan à la tête du pays.
À Lomé, les panneaux géants exhibant le président Faure Gnassingbé se dressent à tous les carrefours. Mais dans les allées étroites du marché central de la capitale, nombre de Togolais expriment leur ras-le-bol devant cette famille qui s'accroche aux rênes du pouvoir depuis plus d'un demi-siècle.
Actuellement, j'ai 31 ans. Mais depuis ma naissance, il n'y a que la famille Gnassingbé.
Moi j'ai 48 ans, donc il faut imaginer, ça fait 50 ans que les Gnassingbé sont là, donc déjà ils sont là 2 ans avant moi.
Mon grand-papa, il a grandi, il a connu la famille Gnassingbé. Mon père, il a connu la famille Gnassingbé. Même moi, j'ai connu la famille Gnassingbé. Il faudrait qu'il y ait du changement. Le Togo, ce n'est pas un royaume.
Cette année, la campagne ne passionne pas les foules. Beaucoup se disent fatigués et découragés par des élections où les opposants n'ont aucune chance de victoire.
Depuis que les élections sont nées au Togo, là, rien n'est propre, rien n'est clair dedans.
Avant le scrutin, plusieurs organisations de la société civile se sont vues refuser l'observation indépendante de l'élection. La principale demande de l'opposition, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, n'a pas été mise en place. David Dossé, porte-parole de Togo Debout.
Tout est mis en œuvre pour que le système de fraude et la stratégie de confiscation du pouvoir se pérennisent.
En attendant la proclamation des résultats, l'armée quadrille déjà le pays. Faure Gnassingbé s'est déclaré serein et confiant à l'idée de remporter cette élection dès le premier tour.
Un reportage de François Mfer Katadji. Un mot de la météo, des nuages et de la pluie sur les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne. Grand soleil partout ailleurs. Côté température, comptez 10 à Lille, 11 à Nancy et Brest, 14 à Biarritz et 16 à Perpignan.